France Bleu Drôme Ardèche à votre service. Jusqu'à 10h, Nelly Sorbier.
Et nous poursuivons notre journée spéciale à votre service consacrée ce matin au partage et à la transmission de souvenirs. Vous êtes les bienvenus en direct au 04 75 40 10 10. Dites-nous si vos parents, vos grands-parents, vous-même, hein, vous avez vécu la période 39-45, on verra dans un instant que malheureusement aujourd'hui c'est rare, mais vous, en tant que parents, grands-parents, est-ce que vos propres parents ou grands-parents vous ont parlé de cette période ou était-ce tabou à la maison? Est-ce important pour vous que ces souvenirs soient transmis? Justement, les transmettez-vous, ce que vous avez en votre possession, à votre tour? À qui? Pourquoi? Venez nous le dire au 04 75 40 10 10 et en parler avec Jean-Paul Chéron. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Alors vous êtes l'un des créateurs de Mémoire de la Drôme. Mémoire de la Drôme qui collecte et qui archive des documents et photos depuis 1900, les années 80 on va dire.
1985.
Hein. 1985, donc ça fera 40 ans l'année prochaine. Que les photographies, les sons, les films et les documents qui retracent l'histoire de notre département de la Drôme sont collectés. Vous avez fondé Mémoire de la Drôme avec André François, puis le journaliste Pierre Vallier à l'époque, Jean-Paul Chéron.
Alors tout à fait, j'étais étudiant en thèse en sociologie, je travaillais sur les médias, notamment l'histoire de la télévision, son avenir, et il y avait de l'avenir, la preuve, on s'en aperçoit actuellement. Je travaillais également dans le cadre d'une association à la réalisation d'audiovisuel avec la réalisation et la mise en place aussi d'archives, ce qui m'a amené en fait à proposer, notamment à Michèle Nathan aussi, qui était directrice du service d'archives, des services d'archives de la Drôme, à André François, qui était directeur du CDDP, donc à proposer cette... outils de collecte, en fait, et d'animation autour de ce patrimoine départemental qui retrace, avec pour objectif donc de retracer l'histoire du département, mais aussi la vie des gens et tout ce qui faisait un petit peu la particularité du département, quoi.
Oui, voilà. Donc autant dire que pour vous, le devoir de mémoire est essentiel.
Tout à fait. ces témoignages apportent beaucoup d'informations sur l'évolution du département, mais aussi sur les modes de vie, sur la façon dont les gens ont vécu dans le passé ou vivent encore aujourd'hui.
Au présent, finalement.
Au présent.
Hein, et puis,
voilà.
ça permet de réfléchir aussi peut-être sur l'avenir, hein, c'est
voilà.
Ça. 04 75 40 10 10 pour venir en discuter avec nous. Bonjour Marie-Claire. Bienvenue Marie-Claire, vous êtes à Bourg-Saint-Eusèbe.
Bonjour.
Alors, vous avez des souvenirs que vous a raconté votre papa ou pas, Marie-Claire?
Oui, c'est des légers souvenirs que mon papa m'a parlé, mais c'était un sujet vraiment tabou. Il n'en parlait jamais.
Mais votre papa était prisonnier, c'est ça?
Oui, mon papa a été prisonnier pendant 5 ans à la frontière russe. Je ne me rappelle pas du nom du village, parce que c'est tellement loin, tout ça. Donc, voilà.
Mais il n'en parlait jamais?
Non, il n'en parlait jamais. Non, c'était quelque chose de tabou pour lui. Je ne sais pas, je le comprends quelque part, mais pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas.
Et quand vous dites vous le comprenez?
Oui, je le comprends quelque part. Est-ce qu'il en avait honte? Je ne sais pas.
À ce jeu dit, Jean-Paul, nous en parlions avec, ensemble hors antenne. Vous avez connu ça aussi avec votre papa?
Tout à fait. Mon papa était résistant, donc il a participé à la libération de Montélimar et la remontée de la vallée du Rhône. Il en parlait peu, vraiment très peu. C'est mon grand regret d'ailleurs, parce que le temps passe vite et puis quand ces personnes disparaissent, eh ben, il est trop tard.
Ouais.
D'où l'importance de conserver des témoignages oraux et filmés aussi. Je pense que c'est... et je comprends très bien la position de cette dame, parce qu'on a une sorte de frustration de ne pas connaître... Moi, j'ai su par les livres, par d'autres témoignages, que ça avait été terrible, cette remontée de la vallée du Rhône. Des animaux gonflés, morts sur la route, des cadavres, des... Mais je pense que ça a laissé tellement de traces auprès de ces personnes. Et prisonniers en Allemagne, ce n'était pas non plus une partie de plaisir, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Surtout à côté de la frontière russe, parce que quand on sait ce qui s'est passé dans le conflit Allemagne et Russie et Union soviétique, Moi, je comprends le papa de cette dame, mais c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage.
Et vous avez essayé, Marie-Claire, à l'époque, de lui demander justement des informations, d'en parler avec lui?
Non. Je ne sais pas d'ailleurs comment on a abordé ce sujet. Je ne m'en souviens pas. Je me revois à la table, lui parler, tout ça. Mais je ne vois pas du tout pourquoi la conversation est venue là, parce que je savais qu'il n'en parlait jamais. Mes frères et sœurs, c'était pareil. Ils n'en savent pas plus que moi, je pense. Mais vous savez, quand il vous raconte, vous racontez un peu sa journée, par exemple, le matin, bon, il s'est levé très tôt, il vivait dans une cabane en bois, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'eau, il fallait qu'ils aillent... Pardon ?
Oui, les stalags.
Les stalags, les fameux stalags dont on a entendu parler...
Oui, ces maisons dans lesquelles, enfin, ces maisons, ces abris de fortune, où les gens étaient.
Des cabanes en bois, quoi. Il y avait,
c'est
ça. Pas de confort du tout, hein. Et encore, je ne sais pas sur quoi ils dormaient, ça, je ne sais pas. Il ne me l'a pas dit. Et je vais vous expliquer, quand ils sortaient avec leur seau, chercher de l'eau, parce que l'eau, elle n'était pas à côté, il fallait la chercher. Mmh. Et quand ils revenaient, les Allemands leur tiraient dessus et leur perçaient les seaux. Et quand ils arrivaient à la cabane, ils n'avaient plus d'eau dans le seau. Ils ont vécu l'enfer. Quand je vous dis qu'ils ont vécu l'enfer, excusez-moi.
Ah oui, ça vous émeut, on peut le comprendre, Marie-Claire. C'est normal. C'est vrai que c'est des moments, même si on ne les a pas vécu nous-mêmes, qui sont douloureux de toute façon à entendre.
Ah ben c'est sûrement très très fort. Et c'est une tradition orale aussi qui reste. On ne matérialise pas forcément la façon dont tout ça s'est passé, mais on sent bien qu'il y a une émotion. On est chargé, même en tant qu'enfant, des personnes en question. On ressent la douleur qu'ils ont pu subir, en fait, dans des situations pareilles, hein, c'est sûr.
Et puis les silences en disent long, hein, finalement, Marie-Claire, c'est ça aussi. Hein. On peut imaginer peut-être même pire que ce qu'ont vécu ces personnes-là.
Oula, oui, parce que 5 ans, on rendait compte, 5 ans, c'est long, c'est long.
Et en tout cas, vous avez souvenir qu'il vous en ait parlé une fois, c'est ça?
Il m'en a parlé qu'une fois, ça, et je m'en souviens très très bien, comme si c'était hier. Hein. Vraiment, il s'est mis... Et c'est la première fois que je voyais pleurer mon papa, la première fois.
D'où l'importance. Non, mais on comprend. Ne vous excusez pas, c'est important, l'émotion. Il faut les vivre, ces émotions-là. On est là aussi pour ça aujourd'hui, hein, pour les vivre ensemble.
D'où l'importance de conserver au mieux et le plus possible ces souvenirs, même de la part des enfants. C'est-à-dire, votre témoignage est aussi intéressant. Là, il y aura un enregistrement par rapport à la radio. Hein, donc, c'est tout à fait... C'est tout à fait intéressant, même si vous n'avez pas toutes les données, toutes les informations. Il y a le poids de ce ressenti, le poids de cette détresse en fait qui ressort et qui transpire à partir de votre voix aussi. Hein.
Et puis ce qu'on entend aussi justement, c'est l'importance de parler quand on peut, quand on est là sur cette terre, ou d'écrire, pourquoi pas, si on n'arrive pas à parler, à
écrire,
dire ce qu'on a vécu.
Parler, prendre des images, tout ce qui peut être un témoignage est intéressant. On parlera peut-être du Vercors tout à l'heure, mais il y a des collections à mémoire de la Drôme qui montre en fait la vie dans le village, peut-être 3 jours ou 4 jours avant l'intervention des troupes alpines allemandes. Je pense à la collection Louis Filet, là, le fondateur des établissements Bellon, la bijouterie, qui avait une maison de campagne à La Chapelle et qui a pris 4-5 jours avant, avant l'arrivée des troupes allemandes la fenaison. On sent cette espèce de quiétude, de calme, de... Et puis après, c'est l'orage, quoi. 3-4 jours après, c'est l'orage. Et là, on a une deuxième collection qui arrive. Et c'est la collection de Jean Veillère, des photos de M. Chazot, qui était directeur d'école à Die. Et ces gens-là sont montés au Vercors 3-4 jours après les massacres. On creusait les fosses pour enterrer les morts. Et on a ces photos qui sont restées. Et ça, ce sont des témoignages qui sont indispensables aux... pour retransmettre l'histoire, l'horreur du nazisme, tout ce qu'il y a derrière, en fait, hein, à travers la prise de pouvoir par des États fascistes ou autres. Mmh. Et ça, la photo, le témoignage enregistré, et malheureusement, ben, les personnes témoins sont toutes décédées pour beaucoup d'entre elles.
Oui,
la plupart.
Beaucoup, hein. Et la plupart, ouais. Mais c'est vrai aujourd'hui. Merci en tout cas pour votre témoignage, Marie-Claire. Prenez soin de vous et à bientôt sur France Bleu Normandie. Au revoir.
Merci.
Merci de nous faire confiance justement et de partager tous ces moments avec nous ce matin. On parle de partage et de transmission de souvenirs avec vous au 04 75 40 10 10. Vos parents, vos grands-parents ont connu la guerre, la période 39-45. Est-ce qu'ils vous en ont parlé? Que vous ont-ils raconté? Est-ce que c'était tabou ou pas, comme Marie-Claire avec son papa? Est-ce important pour vous de transmettre ce souvenir à votre tour, à vos enfants? À partir de quel âge vous transmettez ce souvenir et pourquoi? 04 75 40 10 10 avec nous pour en discuter ce matin, Jean-Paul Chéron, l'un des créateurs de Mémoire de la Drôme. Et puis dans un instant, nous aurons également en ligne Sophie Loridon, réalisatrice qui est très connue pour son long métrage Lucie, après moi le déluge, un documentaire sur une ancienne agricultrice et sa vie sur nos terres ardéchoises. Un film qui a largement dépassé les 10 000 spectateurs sur la région. Et depuis, Sophie s'investit vraiment justement pour ce devoir de partage et de transmission de souvenirs, avec notamment une web-série qui s'appelle « Quand j'étais petit », Sophie Loridon, qui permet à des enfants d'interroger des anciens justement sur leur passé. On verra en quoi c'est important de le faire. Venez nous dire ce que vous en pensez vous aussi au 04 75 40 10 10. C'est à votre service jusqu'à 10h.
À votre service, Nelly Sorbier.
On parle aujourd'hui de partage et transmission de souvenirs, journée spéciale aujourd'hui, avec nos invités qui sont là en studio pour discuter de ce devoir de mémoire avec vous en direct au 04 75 40 10 10, notamment Jean-Paul Chéron, à l'origine de Mémoire de la Drôme, mémoire qui vous propose gratuitement plus de 150 films porteurs de la mémoire de notre région. Chaque jour, environ 500 sont vus au total dans une trentaine de pays. Hein. Donc c'est vrai que ça a une portée assez incroyable. Bon, ce sont des chiffres qui sont peut-être pas complètement à jour, je ne sais pas.
C'est un peu enjolivé quand même.
C'est un peu enjolivé. Ah, je ne sais pas, je les ai trouvés sur Internet. Mais comme quoi, on trouve tout et n'importe quoi aussi sur Internet.
Non, mais il y a pas mal de documents. Hein. C'est pas ce qui manque.
Oui, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à y aller.
Plus de 100 000 photos. C'est un site qui est consultable par tous, hein, gratuit, bien sûr. Et qui permet, en fait, de découvrir un petit peu la vie des gens dans le passé. Il y a des dessins aussi. Donc, on remonte assez loin dans les siècles, hein, en fait.
Oui, oui. Ça remonte jusqu'à quelle époque, en fait, au plus loin, selon vos souvenirs, Jean-Paul ?
Les plus anciens dessins, là, puisque la photo n'existait pas, c'est du 16e siècle, à peu près.
Ouais, quand même. Et il y a un moteur de recherche, donc par exemple, si vous tapez, je ne sais pas, 1945 ou 1939, vous trouvez en effet des documents, des photos, etc. Dans un instant, Nicole de Piégro-Laclastre qui viendra témoigner, puisque cette émission est la vôtre aussi, vous êtes les bienvenus au 04 75 40 10 10, pour nous dire, vous, si vos parents, vos grands-parents vous ont parlé de cette période 39-45 ou si c'était tabou dans la famille. Et puisque vous faites aujourd'hui de ces souvenirs, est-ce que vous les avez matérialisés, écrit peut-être, est-ce que vous avez retrouvé des documents en particulier? 04 75 40 10 10. Une jeune femme qui fait elle aussi un grand pas pour l'histoire, c'est la réalisatrice Sophie Loridon. Bonjour Sophie.
Bonjour Nelly.
Merci d'être avec nous. Non, c'est pas un gros mot parce que c'est vrai, on en parlait hors antenne, c'est important tout ce que vous faites. Alors ça a débuté avec le long métrage Lucie, après moi le déluge, un documentaire sur une ancienne agriculture et sa vie sur nos terres ardéchoises. Un film qui, selon toute attente, a dépassé les 10 000 spectateurs sur la région. C'était un succès incroyable, Sophie, à l'époque.
Hein. Oui. C'était fabuleux. D'ailleurs, j'avais fait ma première interview avec vous, Nelly, je me rappelle très bien. C'était super. Et les gens se sont retrouvés à travers Lucie. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point il y avait une demande aussi, un besoin de cette reconnaissance de cette vie d'avant aussi, parce que ça a tellement changé. C'était tellement exponentiel, les changements, qu'on ne se retrouve pas trop aujourd'hui. Et c'est bien de créer un pont, de faire un lien entre les générations actuelles et les générations plus âgées, pour qu'en fait, on se comprenne. Et c'est vrai que c'est en créant un lien et en créant un affect, qu'on arrive à créer une relation. Et là, on se comprend, en fait.
Oui, on arrive à se retrouver sur la même planète, alors qu'on peut avoir l'impression d'évoluer sur des planètes différentes. Alors, c'est ce que vous œuvrez à faire au quotidien, Sophie, aujourd'hui, avec notamment la web-série « Quand j'étais petit », c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est série quand j'étais petit, si vous cherchez sur Internet, et il y a une chaîne YouTube. Donc le but, c'est de créer des films dans les villages où les enfants rencontrent les aînés de leur village et ils les questionnent sur leur vie quand ils étaient petits. Et on en fait des films et après on peut les retrouver. Donc d'abord on fait des projections dans les villages pour que tout le monde se rencontre. Donc les salles sont pleines, les gens se retrouvent, ils n'arrivent plus à partir parce que tout le monde discute. C'est formidable.
Ça sacré lien social.
Ouais, ça c'est vraiment vraiment trop beau. Et après, on peut les retrouver ensuite, une fois que c'est projeté dans le village. Seulement après, on peut les voir sur YouTube.
Donc on peut vous solliciter pour vous demander de venir faire un film sur notre commune, par exemple. Comment ça se passe,
oui,
Sophie?
Oui, c'est ça. En fait, mon rêve, ça serait que ça devienne une chaîne nationale de mémoire vivante et qu'il y ait des réalisateurs un peu partout en France qui s'approprient cette chaîne et qui postent des vidéos sur leur village, leur région. Et voilà, c'est vrai qu'il faut être aidé par les institutions. Il y a le département de l'Isère qui nous aide. Il y a le fonds d'appui Ville Innovante Senior qui est un fonds national qui nous aide également. Et là, aujourd'hui, je suis en atelier avec des enfants. Ils vont arriver là à Saint-Jean-en-Valdaine dans un EHPAD. Et on va faire une journée de tournage jeudi avec tous les gens qui veulent participer dans l'EHPAD. Et puis on fera une projection à l'EHPAD et dans le village plus tard. Mais ça éveille la curiosité des enfants grâce à la vidéo, parce que c'est vraiment un appât, la vidéo, pour eux. Et en fait, au début, ils sont moyennement motivés, pas tous forcément motivés, ouais, pour ça. Et à la fin, en fait, ils font des gros câlins aux aînés parce qu'ils, voilà, ils se sont déjà, il y a déjà un lien qui s'est créé. Ça va très vite avec les enfants, le lien se crée facilement.
Oui, c'est ça. Et ça, ils sont neutres de tout, finalement, les enfants. Hein. Et puis, ils sont vraiment dans l'émotion pure et dure. Hein. Jean-Paul, vous appréciez ça. Beaucoup le travail de Sophie. Hein.
Ah, c'est très intéressant. Et en plus, ça laisse une trace. Et ça, c'est très important.
Et oui, parce que juste faire... c'est bien de faire de la rencontre entre soi, mais en fait, c'est le laisser... Moi, c'est ce que j'ai fait avec Lucie après moi le déluge, avec ma cousine Lucie. C'est que j'avais envie de laisser une trace de son passage parce qu'elle était incroyable et elle était pleine de bon sens. Et j'avais vraiment envie de partager ce bon sens. Et c'est ce que j'essaye de faire avec des gens que je connais pas, parce que vraiment, chaque personne est un trésor et il faut juste aller creuser. Et on a plein de choses à apprendre de nos aînés. Et surtout... En fait, si on va pas chercher les questions, on n'aura pas.
Oui, c'est pas une interview.
Il faut juste aller chercher, en fait.
Vous laissez faire par la vie, finalement, hein, vous menez par la vie, hein, c'est ça, Sophie.
Oui, ben, on essaye.
Jean-Paul.
C'est d'ailleurs très intéressant parce que, en fait, à travers la mémoire, il y a des événements nationaux. Hein, on parlait du Vercors tout à l'heure, mais
oui,
il y a aussi les événements de la vie quotidienne des gens.
Tout à fait.
La façon dont on vivait, la façon dont on réagissait, etc. Tout ça, ça fait partie de la vie communautaire, en quelque sorte. Et il n'y a pas que les événements d'importance nationale qui comptent aussi dans l'histoire d'un peuple, entre guillemets, hein, des Dromois ou des Ardéchois ou des Isérois.
Oui, il y a le quotidien aussi, voilà, le quotidien qui n'est pas tout noir non plus, même pendant la période 39-45.
Exactement, ça amène aussi des informations sur l'évolution, des modes de vie, des techniques, etc. Puisqu'on vit dans un siècle où les choses ont été chamboulées, transformées. Les anciens que l'on connaît, là, qui ont 90 ans actuellement, ont connu la charrette avec les bœufs, maintenant...
Oui, les débuts de la télé, la radio, bref. Et aujourd'hui, ils sont devant Internet, quoi.
Tout à fait.
C'est vrai.
Exactement.
Que c'est incroyable. Ouais. Donc, Sophie, merci beaucoup pour tout ce que vous faites.
Merci pour m'avoir laissé la parole. Et puis, si les gens veulent s'abonner, c'est avec grand plaisir pour soutenir le projet. S'abonner sur YouTube, c'est gratuit.
Et alors, on tape quoi pour s'abonner? Quand j'étais petit, Sophie Loridon.
Série, il faut bien taper série quand j'étais petit. Vous allez tomber sur la chaîne YouTube ou sur le site Internet. Voilà.
Bon, abonnez-vous comme et n'hésitez pas à demander à Sophie aussi de venir tourner près de chez vous, même si vous êtes débordée, je le sais, parce que vous êtes tellement passionnée que vous passez vos nuits et vos jours autour notamment de cette web-série. Donc prenez soin de vous. Merci beaucoup Sophie Loridon, à bientôt sur France Bleu Ardèche.
Merci beaucoup.
Au revoir. 04 75 40 10, rassurez-vous, je vous mettrai toutes les infos qu'il vous faut comme d'habitude sur francebleu.fr, émission à votre service, que que vous pouvez réécouter, et ça aussi, ça marque un petit peu l'histoire, quand vous le souhaitez chez vous. À mes côtés, toujours Jean-Paul Chéron, l'un des fondateurs de Mémoire de la Drôme, qui collecte, qui rassemble des photos, des sons, des films, des documents qui retracent l'histoire de notre département de la Drôme depuis 1985. Et vous aussi, pour parler aujourd'hui de partage et de transmission de souvenirs, venez nous dire comment ça se passe chez vous. Est-ce que justement on parle de son histoire, du passé? Qu'en fait-on? 04 75 40 10 10.
France Bleu Drôme Ardèche, 9h-10h, à votre service.
Est-ce qu'on peut aussi parler d'histoire avec le sourire? On est là pour parler de partage, de transmission de souvenirs avec Jean-Paul Chéron, l'un des créateurs de Mémoire de la Drôme, qui collecte et archive des documents, des photos depuis 1985. 40 ans, ça sera une date anniversaire l'année prochaine.
Je pense, oui.
J'espère que vous serez de la fête aussi, Jean-Paul.
Moi aussi.
Bon, Nicole est avec nous depuis Piégros-la-Clastre. Nous sommes là aussi pour partager vos témoignages à vous ce matin. Dites-nous si vos parents, grands-parents vous ont parlé de cette période de 39-45. Est-ce que c'était un tabou dans la famille? Est-ce qu'on vous en a parlé aussi d'une manière positive dans le quotidien? C'est ce que vous disiez, hein, il y a l'avant et l'après. Hein, voilà, ouais. L'avant, l'après bombardement, l'avant et l'après invasion. Enfin bon, il y avait une vie aussi avant et pendant. 04 75 40 10 10. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Et merci d'avoir patienté. Vous êtes à Piégros-la-Clastre.
Oui, oui, oui. Mais je suis de Cré, donc mes grands-parents étaient de Cré. Ils nous racontaient toujours l'histoire, pas forcément de la guerre de 40, mais celle de 14 et tout. Mon grand-père était mort gazé.
Ouais.
Suite, et ma grand-mère, elle nous racontait toujours une histoire qui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais quand les Mongols sont arrivés à Cré, ils sont arrivés avec des chevaux et tout, ils sont passés dans les rues, ils ont commencé ils ont violé des tas de bonnes femmes, et quelques temps après, il y a même des femmes qui étaient enceintes, et c'était très difficile pour elles, parce que on leur disait, regarde, elle s'est fait mongoler, et les enfants ont subi aussi de l'ironie sur ce qu'ils avaient vécu, alors qu'ils n'y étaient pour rien, quoi. Donc il y a cette histoire dont je me souviens. Chez ma grand-mère, il y avait une grande cave dans la rue Archina. Quand il y avait des alertes à la bombe, elle ouvrait et tout le monde descendait dans la cave pour se protéger. Mmh. Et ça, c'était un truc dont on se souvient. On l'a pas vécu, mais quand on faisait un repas, ma grand-mère et mon grand-père étaient sur le monument sur le Jubernon, il y a le nom de mon grand-père. Et mon père, il nous racontait toujours quand ils avaient été aux Aras, sur la route douce. Ils étaient en train de cacher les armes dans les champs creusés. Et puis, ils ont vu arriver les Allemands. Ils avaient été dénoncés, ils n'ont jamais su par qui. Mais là, mon père s'est dit, tiens, ça y est, c'est foutu. Et en fait, le monsieur qui était propriétaire a dit, non, mais c'est mon fermier, il est en train de creuser pour planter des trucs.
Ah oui.
Et du coup, ils ne sont pas allés plus loin.
Il les a sauvés.
Ouais. Il avait son pied sur les armes qu'il était en train d'enterrer. Et c'était une histoire qu'on a dû entendre ça des dizaines de fois, mais chaque fois, ça nous mettait des frissons, quoi.
Et oui. Et Jean-Paul, ces histoires-là, vous les connaissez aussi.
Ah ben oui, je suis originaire des alentours de Saillant. Alors, vous voyez, c'est pas loin, de Piégros. La vallée de la Drôme, en 1944, a été vraiment victime d'atrocités hein, de la part des Allemands, et notamment de ces troupes mongoles. La dame m'expliquait ce qui s'est passé. On en sait peu, finalement, parce que ça a été mis sous le manteau et... Mais ça a été assez terrible. Il faut savoir que la résistance a bloqué l'avancée des troupes allemandes qui montaient vers le Vercors. Et ce qui a permis de retarder fortement l'arrivée des Allemands de ce côté-là, de la vallée. Mais ça a été très difficile. Je veux dire, des villages comme Espenel ont été brûlés. Des gens ont été fusillés, ça a été terrible.
De femmes enceintes, mais des enfants aussi, ça a été quelque chose.
Mais la résistance a fait un énorme travail qui a permis de ralentir les troupes allemandes. Après, arrivé à Die, il y a eu aussi également des atrocités, des jeunes maquisards ou pas d'ailleurs, qui étaient à l'hôpital, qui ont été fusillés, y compris sur leur brancard. Ça a été terrible, hein. C'était les prémices de ce qui s'est passé au Vercors après, où là ça a été encore plus terrible avec Vassieux et La Chapelle.
Mais il ne faut pas oublier ça, et c'est pour ça que c'est important d'en parler aussi, Nicole. Et c'est ce que faisait très bien votre grand-mère. Alors tout à l'heure, avec Marie-Claire, on parlait du fait de ne pas parler. Là, que ce soit votre grand-mère ou votre papa, ils vous ont parlé.
Oui, mais ma grand-mère, elle avait eu 4 enfants, et mon père, il a jamais connu son père, quoi. Il est mort avant qu'il naisse, elle était enceinte, et il est mort, quoi. Et mon père faisait partie de la compagnie Chaputa.
D'accord. Ah oui, d'accord. J'ai vu des photos de cette compagnie sur Mémoire de la Drôme, justement.
C'est une des compagnies avec la compagnie Pense qui a bloqué, qui a fait un travail héroïque, d'ailleurs, pour empêcher les troupes allemandes, ou tout du moins limiter
leur avancée
sur le Vercors. Moi, ce que j'ai à vous dire, et ce qui est un peu dommage, c'est que toute cette tradition orale, eh bien, il faut l'enregistrer. Alors, on n'y pense pas. C'est trop tard pour beaucoup d'entre nous. Hein, moi je regrette, par exemple, de ne pas avoir enregistré mon
papa. Votre
papa,
eh oui. Mais parce qu'on peut toujours enregistrer, justement, la voix. On n'est pas obligé d'écrire
exactement.
Ce que nous dit la personne. On n'est pas tous doués en écriture.
Parce que la tradition orale, elle peut être transformée. Elle peut, vous savez, c'est le bouche à oreille. Bon, tout ça, ça peut... Quand on laisse une trace qui a valeur d'archive, en fait, effectivement, c'est une très bonne chose pour rappeler tout ce qui a pu se passer, les horreurs, mais aussi les bons moments, hein, les scènes de vie et tout ça, quoi.
Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Et est-ce que vous en avez fait quelque chose, justement, de ces souvenirs, Nicole ? Est-ce que vous en faites quelque chose aujourd'hui ?
Oui. Mes petits-enfants, ils adorent quand on en parle. Et moi, mes enfants, ils étaient partis d'un groupe qui venait à la radio, c'était les enfants terribles, et ils avaient été, je les avais emmenés, j'ai trouvé voir un monsieur, un poilu, d'Autichamp, et j'ai la cassette encore, là, une vieille cassette, où il avait interviewé, il lui avait posé des questions et tout, et si ça vous intéresse, je peux vous la faire passer.
Ah bah, pour Mémoire de la Drôme,
il faut que vous preniez contact avec les services de Mémoire de la Drôme, et ils feront une duplication de votre cassette, ils vous la rendront tout
ah oui,
sans
ça,
problème,
hein,
bien
quand
sûr,
même sa
heureusement.
Cassette, ouais.
Et bon, ça peut être intégré, y compris en son, sur le site ou de Mémoire d'un Drôme. Hein. Bravo en tout cas d'avoir pensé à ça. Parce
oui,
que
tout le monde n'y pense pas, c'est vrai.
Exactement.
C'est vrai,
exactement.
Et c'est bien de le rappeler ce matin.
Super intéressant, c'est un peu émouvant parce que ça fait ressortir plein de choses qu'on avait mis de côté un petit peu, mais c'est bien aussi.
Merci. Merci beaucoup et merci à vous, justement, d'y participer ce matin. Prenez soin de vous, Nicole. Je vous mets toutes les infos qu'il vous faut aussi sur Mémoire de la Drôme sur francebleu.fr, émission à votre service.
France Bleu Drôme Ardèche, 9h-10h, à votre service.
Partage et transmission de souvenirs, d'émotions également aujourd'hui. Merci à vous de participer à cette émission pour nous parler de vos parents, de vos grands-parents, de cette période de 39-45, à savoir justement ce qu'on vous en a raconté. Puisqu'aujourd'hui, Jean-Paul Chéron, qui est à mes côtés, qui a fondé Mémoire de la Drôme dans les années 85 avec André François et Pierre Vallier. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peu de gens, il y a quasiment plus de personnes témoins de cette époque-là, de vrais témoins. De l'époque.
Oui, malheureusement, hein. Ce sont des personnes qui auraient une centaine d'années et très peu ont survécu. Hein. Il n'y a pratiquement plus de témoins, d'autant plus que ce sont des gens qui ont souffert. Hein. Je veux dire, ils se sont abîmés. Moi, je me rappelle mon père qui me racontait avoir mangé du chocolat qui avait un goût de pétrole parce que les cheminots de la vallée du Rhône avaient détourné un train allemand de marchandises. ils mangeaient ce qu'ils pouvaient trouver. Et c'était les restrictions, c'était... Et puis après la guerre, ça n'a pas été simple non plus. Tickets de rationnement, jusqu'en 1956, vous aviez des tickets de rationnement. Donc c'était pas la...
Ouais, ça a été compliqué
c'était
aussi,
pas facile,
hein,
ouais.
Ouais, c'était pas facile. Et puis tous ces souvenirs, justement,
ouais.
Ouais, ancrés aussi. Et aujourd'hui, nous sommes justement les témoins et les porteurs de ce souvenir. Hein. C'est important de le transmettre, c'est ce que nous faisons avec Catherine de Cré. Bonjour Catherine.
Ouais.
Alors, vous, c'est votre grand-mère qui vous a parlé, c'est ça ?
Oui, c'est ça, ma grand-mère du Sud-Ouest, elle était périgourdine et j'ai vécu beaucoup avec ma grand-mère et elle me parlait tout le temps de l'histoire de la Dordogne et des Allemands qui avaient occupé la Dordogne et elle me parlait de la résistance, elle me parlait d'Oradour-sur-Glane, d'Oradour-sur-Vert, de la confusion des Allemands qui ont bombardé l'un et pas bombardé l'autre. Elle m'a parlé, elle-même était une petite jeune fille de 14-15 ans, elle a travaillé dans la poudrerie de Bergerac, elle remplissait les munitions de poudre. Et puis elle m'a parlé des pendaisons qu'il y avait eu à Bergerac, les Allemands, les nazis.
À Tulle, nous dit Jean-Paul aussi.
Comment ?
Des pendaisons qui ont eu lieu
à Tulle aussi.
À Tulle, oui, c'est ça. Ouais. Tulle, Bergerac, au crochet des boucheries. Elle m'a parlé de la résistance, évidemment, du Vercors. Qu'est-ce qu'elle a pu m'en parler du Vercors ? Et quand je suis venue dans la Drôme et que j'ai vu que j'étais pas loin du Vercors, j'ai pensé à ma grand-mère. C'est bizarre.
C'est pas bizarre. Ça vous relie, en fait, tous les jours à votre grand-mère, ce Vercors. Et on sent que vous preniez beaucoup de plaisir à l'écouter parler, non ?
Oui, énormément, parce qu'elle nous a, c'était un livre d'histoire, quoi. C'était passionnant, comme une BD je l'écoutais parler, comme un roman qu'on ouvre et qu'on lit. Elle m'a parlé mon oncle a débarqué aussi en Provence avec le général Delattre. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Mon papa était interné, enfin, on disait interné à l'époque, ça voulait dire prisonnier à Compiègne. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre pour pas oublier de vous dire toutes ces choses? Oui, que lorsque nous habitions dans l'Oise, elle-même et avec ma maman, ils ont peint les vitres avec de la peinture bleue pour pas que les Allemands, quand ils passaient au-dessus, parce qu'ils entendaient passer les avions ouais, très très bas, ça faisait un bruit très sourd, ouais, et ils avaient donc peint pour pas qu'on les voit, pour pas que les lumières... Pour pas que les avions tirent dans
pour
les...
Pour pas se faire repérer, hein, tout à fait, oui. Ouais, ouais.
Donc tout ça m'est resté, et j'en ai parlé à ma fille, pas encore à mes petites filles, mais ça va venir quand même à l'occasion, je vais le faire.
Et vous avez attendu que votre fille ait quel âge pour lui en parler ?
Je crois qu'elle était déjà adolescente, hein, je veux dire, parce que ma grand-mère était encore vivante, donc on a eu des conversations, mais elle écoutait, quoi, je veux dire... Voilà, elle est maman. Hein.
Oui, c'est maman ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends, Catherine, quoi, aussi, c'est que toutes ces conversations valent plusieurs cours d'histoire d'histoire que l'on peut avoir à l'école. On retient ça. Ça fait des années que votre grand-mère vous a parlé de ça, Catherine, et on sent que vous avez tous ces souvenirs gravés en vous.
Bah, c'est chargé de sentiments aussi, hein,
d'émotions, justement, c'est ça. Et vous en avez fait quelque chose, vous l'avez transmis à votre fille, est-ce que vous avez mis certaines de ses mémoires par écrit, vous les avez enregistrées?
Justement, à vous entendre dans votre émission, je vais le faire. Ouais. Je pense qu'effectivement, c'est de le noter, ce serait bien. Voilà. J'ai donc une lettre, je vais parler de mes souvenirs, parce qu'effectivement, c'est pour pas que ça s'oublie, quoi. Voilà, ce sera intéressant de le faire, quoi. Ouais, je vais m'y mettre.
Merci.
Elle m'a parlé de Bergerac, elle m'a parlé de ce qui s'est passé à Oradour, en Provence, je crois que je l'ai plus dit.
Oui, c'est pour ça que c'est important, si vous pouvez le faire et si vous souhaitez le faire, alors soit d'écrire, soit de s'enregistrer, de collecter des photos aussi, tous les documents sont importants.
Constituer un témoignage, en fait, y compris sur des scènes de vie quotidienne. Hein, les choses ont bien changé, on ne vit pas de la même façon aujourd'hui qu'avant. Donc ça, c'est important aussi d'en parler. Ça montre l'évolution de la société, ça montre beaucoup de choses.
Oui, on peut se dire finalement, mon témoignage n'a rien de plus que celui de la voisine ou du voisin. Mmh. Mais si, chaque témoignage a un sens, c'est particulier, ça, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, Catherine. On va faire une place avant de se quitter à Monique de Bourg-les-Valence. Bonjour, Monique.
Bonjour.
Alors vous, c'est votre papa qui vous racontait, qui vous a raconté son histoire, c'est ça ?
Oui, elle m'en a raconté plusieurs, hein, c'est maman. Mm-hmm. Donc, elle était en Lorraine, donc bien sûr, c'est là que ça a été le plus vite pris et tout. Et quand elle avait 18 ans, ils ont appris que les Allemands, ils allaient prendre des Françaises, les amener en Allemagne pour faire des enfants. Donc...
Alors, Jean-Paul, alors attendez. Alors,
ça, c'est le régime nazi qui mettait en place, en fait, des lieux pour, comment dire, à partir du moment où les parents étaient blonds aux yeux bleus, ben ça, c'est le nazisme, hein, développer la race, enfin, c'est ce qu'il disait, hein, puisque ça n'avait aucun fondement scientifique. Effectivement, ça, ça a été terrible aussi sur la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est tout le nazisme dans ta perversité, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, Monique, votre maman vous a raconté cette histoire-là.
Donc, ils sont partis de Lorraine et ils sont venus ici dans la Drôme. Et puis, maman faisait, allait nourrir. Vous savez, elle portait de la nourriture au maquisard.
Oui.
Et mon père était maquisard. Mmh. Donc, ils se sont rencontrés comme ça.
Ah, voilà.
Belle histoire d'amour.
Eh oui, c'est ça.
D'amour grâce à la guerre.
Sous voilà. Le drapeau français.
En plus.
Oui, oui, oui. Voilà. Plus. Il n'aurait pas été maquisard. Elle n'aurait pas été les nourrir. Parce que c'est vrai qu'ils avaient besoin que des gens leur portent à manger, puisqu'ils étaient toujours planqués, quoi.
Mmh. Et on parlait en effet hors antenne avec Maëlle, qui réalise cette émission, de la place des femmes pendant ces temps-là, pendant la guerre. C'est vrai que les femmes ont eu un rôle primordial, j'ai envie
très
de dire.
Bah oui, très important.
Ouais.
Il y a un projet de livre, d'ailleurs, mené par un groupe d'historiens romanais, qui concerne donc, et que Mémoire d'Adron va peut-être éditer, c'est en discussion, qui concerne la place des femmes, notamment dans la Résistance et dans cette partie de l'histoire, en fait.
Oh, je le prendrai, parce que moi, j'adore l'histoire.
Ah oui, en plus, ça se sent. Et donc, cette histoire, vous la transmettez aujourd'hui? Vous l'avez transmise?
Oui, je l'ai transmise à mes enfants. Attendez, je suis enrhumée. Je l'ai transmise à mes enfants.
Oui.
Par contre, je voulais vous dire autre chose aussi. Elle m'a raconté, donc, comme ils étaient en Lorraine, il y avait des Allemands. Et puis, un jour, il y a un Allemand qui frappe à la porte. Un jeune Allemand, il devait avoir 16-17 ans. Il pleurait et tout, il était perdu. Ben, ils s'en sont occupés, quoi.
Eh oui. Et ça, c'est pareil. Bon, on n'arrête pas de parler en antenne aujourd'hui, mais Jean-Paul, c'est ce qu'on disait. On le voit aussi au musée de Vassieux ou dans tous les musées. Il y a toujours, d'un côté comme de l'autre, des bons, des mauvais. Il y a des victimes collatérales à chaque guerre, en fait.
Ça me fait penser au livre de Vercors, Le silence de la mer, qui est absolument remarquable. Écrit par un résistant, pendant la résistance d'ailleurs, pendant cette période de guerre, où il y a une relation entre une Française qui, en tout bien tout honneur, hein, je veux dire, et cet Allemand qui visiblement a une sensibilité culturelle, c'est très beau aussi. Comme quoi, bon, il faut pas non plus généraliser. Puis comme je le disais, en fait, le gros problème, l'énorme problème, c'était le nazisme, en fait. Hein,
Oui, voilà. Ils en ont souffert aussi, les Allemands, hein.
Ah oui, de leur côté aussi, bien évidemment, ça laissait des traces indélébiles des deux côtés. Hein. Ça,
et il y a eu des résistants en Allemagne, les Roses Blanches qui ont été assassinées, hein, exécutées, qui étaient de jeunes étudiants qui distribuaient des tracts contre le nazisme et qui ont été attrapés par la Gestapo et qui ont été martyrisés, quoi. Ils n'étaient pas... Bon, c'était pas général, hein, ça c'est sûr. Le régime écrasé complètement. Hein.
Ah, et ça permet ça justement, cette transmission de la mémoire aussi, d'être peut-être plus juste sur l'histoire.
Ouais, plus ouvert et peut-être de cibler là où était le problème en fait. Ouais. Je pense que...
De mieux comprendre que ce qu'on fait à l'école, parce qu'à l'école on l'explique quand même tout ça, Jean-Paul, mais ça apporte un plus quand même.
Oui, je pense que... Moi je sais que mon père n'a jamais été anti-allemand. Il m'a toujours dit, moi j'ai lutté contre le nazisme. Mmh. Et il avait d'ailleurs parmi ses camarades un jeune homme juif allemand qui à la libération, ça fait partie des petites informations que j'ai pu avoir de sa part, et qui, apprenant que toute sa famille avait été décimée dans les camps de concentration, s'est suicidé.
Mmh. Merci Monique pour votre témoignage, et puis je vous mettrai les coordonnées de Mémoire de la Drôme, comme ça vous pourrez voir quand va sortir ce livre que vous attendez comme nous tous. Merci Monique, prenez soin de vous. Merci pour le partage, bonne journée,
merci.
Au revoir. Merci beaucoup Jean-Paul Chéron d'être venu partager aussi avec nous votre histoire, l'histoire de Mémoire de la Drôme, et puis vos idées sur... cette nécessité de transmettre notre histoire et de ne pas attendre, de le faire oralement, de s'enregistrer, voilà, de laisser des écrits, de faire comme on peut, mais de le faire, hein, peu importe.
Tout à fait. C'est un moyen exceptionnel de nos jours, puisque bon, il faut bien songer qu'il y a 2-3 siècles, on ne gardait pas la voix. Les gens partaient, on n'avait pas leur voix. Aujourd'hui, on peut enregistrer, on peut avoir leur voix, on peut les prendre en photo, on peut faire des films... Il y a une pléthore de moyens, d'outils. Un peu trop même d'ailleurs maintenant, puisqu'on sait que les archives se perdent. On fait énormément de photos. Le numérique, ça coûte pas cher par rapport à l'argentique. Mais il faut ordonner ça, classer, prioriser, et ça c'est très important.
Et il faut utiliser tous ces outils à bon escient justement pour transmettre nos souvenirs et cette mémoire. Merci Jean-Paul, prenez soin de vous.